Bonjour et bonne année à tous. Ici Christian, animateur d'atelier d'écriture à la LEP de Blois. Bienvenue dans cette deuxième émission, Lire et écrire. Tout d'abord, certains d'entre vous se demandent, mais c'est quoi un atelier d'écriture? Ça sert à quoi? Un atelier d'écriture doit être avant tout une activité ludique. Ce n'est pas un cours, on n'est pas noté ni jugé. Il y a des milliers de variantes. Mais la constante reste les trois parties qui structurent le déroulement des séances. D'abord, l'animateur présente le sujet du jour. Ça peut être un roman, un auteur, un film, une vidéo, un jeu avec les mots, les lettres, etc. Ensuite, il donne une consigne d'écriture, en lien avec sa présentation, bien évidemment. La seconde partie est la plus longue. Ce sont les participants qui la font. Chacun écrit un texte en respectant cette consigne, qui ne sert d'ailleurs qu'à inciter l'imagination, pas l'inspiration, car rien ici n'a de divin ou de magique, pour raconter une histoire. Et enfin, chacun, tour à tour, lit à haute voix son texte, c'est le moment de partage et d'écoute. Je vois un peu à votre tête que des questions se posent, des doutes, j'oserai jamais, je suis nul en français. Et bien d'autres interrogations. N'hésitez pas à me poser vos questions à l'adresse de Lire et écrire, qui sert aussi à m'envoyer vos textes. J'y répondrai, soyez-en sûrs, à l'adresse suivante, lire-et-écrire@studiosf.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman policier. Ah oui, du roman policier de Hauldegard, il y a un meurtre, un policier, des suspects, et on doit trouver le coupable. Oh, fastoche. Pas aussi simple. Le roman policier a bien évolué. Après une petite pause musicale, on entrera dans le vif du sujet.
In the year 98, when our troubles were great, it was treason to be a Malaysian. I will never forget the big black whiskered set that the history books tell us were Hessians. In these troublesome times there was all sorts of crimes, far murder it never was rifer. At the hill of Glencree, not an acre from me, lived the Baldini Burdens, the piper. Destiny first was invited, for it's squeezing the bags are empty in kegs, he astonished as well as delighted. In these days poor Dinny could not earn a penny, the law had a sting like a viper, and it kept him within till the bones and the skin were a grin to the rags of the piper. One heavenly night, the moon shining bright, went back from the fair of the diamond. What should he see from the branch of a tree? Corpse of a Hessian there hanging. Says Denny, these are all to find boots of no brogues, and he laid on the heels such a griper. They were so gallus tight, and he pulled with such might, legs and boots came away with the piper. He picked up the legs and took to his pegs till he got to Tin Cab in his cabin. To the powers says Tim, sure I can't let you in, you'll be shot if you're caught if they're rapping. He went round to the shed where the cow was in bed, with a wisp he began for to wipe her. And they lay down together, the 7-foot feather, and the cow fell a-hugging the piper. Next morning some dawned, and he got up and yawned, and pulled on the boots of the Hessian. The legs be the law, he flung in the straw, and he gave them like bail on his mission. The breakfast been done, Tim sent out his young son to get Dinny up like a lamp lighter. And when the legs there he saw, he gazed like a dog at Daddy, the cow at the piper. See, had looked at the place, she the music and taste, he made such a wonderful chanter. Where the party can be, grab a loaf of the stick, take her off to Glenelly with canter. The neighbours were called. called Mrs. Cavanaugh Bald. It began for to humbug and jibe her. To the graveyard she walks with the legs in a box, crying help me behind for the piper. The Celtas then drove a mile or two off, and they got to the fair at Benaney. There the cracker was sold for 4 guineas and gold to the clerk of the parish to Daly. They went into the tent and the look penny spent, for the clerk was a woeful old swiper. And to the devil was there, played the rakes a Kildare, the belt and he punched the piper. Tim gave a bolt like a half-broken colt at the piper, he stared like a gummock. Says he be the power, sure he thought he's 8 hours, you were playing an eldrum and dressed them on. And then he observed that the hessian he'd served, and they all wished next year to the viper. And in Grodden they met, and their whistles they wet, and like devils they danced round the piper.
Au début du siècle dernier, on avait effectivement un policier sans âge, sans vie connue. Maigret est marié sans enfant, un point c'est tout. Nestor Burma est célibataire et grand amateur de femmes. Toutefois, dans Maigret, l'accent est mis sur l'étude sociale des personnages. Et pour Burma, on visitera un quartier de Paris à chaque roman. Dans ceux que je vais vous présenter, il y a 3 récits par livre. Le premier, incontournable, c'est une enquête sur un ou plusieurs meurtres. Le second, c'est le contexte historique du roman. On peut dire l'histoire avec un grand H, à la fois sociale et politique. Le troisième, ce sont les personnages récurrents qui évoluent au cours du temps. Mariage, enfants, mort, etc. La troisième partie n'empêche pas de lire de manière aléatoire les romans, mais c'est mieux si on suit les personnages. L'avantage pour le romancier, c'est de garder les lecteurs qui ont envie de savoir comme dans un roman feuilleton. Le souci est que certaines séries sont très longues et les premiers tomes sont introuvables. Ce qui peut rebuter un lecteur attentif, ces romans sont aussi importants pour leur valeur culturelle. On y apprend, sans s'en rendre compte, un peu d'histoire qui nous permet d'appréhender plus sereinement notre environnement. Toutefois, attention, ne jamais croire tout, vérifier, discuter et creuser un sujet. C'est aussi se donner les moyens de se cultiver encore plus, en quoi ces romans ont leur importance comme stimulation au débat et à la connaissance.
Gumbo looked upon your gum, this country, no, no, no. It's so good.
Pour commencer, je vais vous présenter Peter Tremen, écrivain anglais, spécialiste de la culture celte de par ses origines. Il est reconnu pour ses connaissances à partir des mythes et légendes celtiques de l'histoire irlandaise. Pour raconter cette histoire, il lance une série sur les mystères, au sens biblique, de Sir Fidelma, lettré et juge en Irlande. L'action se passe au 7e siècle. On y apprendra qu'en ce temps-là, les églises romaines, irlandaises et de Grande-Bretagne ne fonctionnent pas de la même façon. Le mariage y est toujours permis et les couvents sont mixtes. L'histoire avec un grand H passe par l'histoire de l'église romaine qui étendra ses lois et son pouvoir sur le nord de l'Europe. Le second personnage récurrent est Tedulf, un moine saxon, ancien juriste formé à l'église romaine. Fidelma et Tedulf, au cours de leur voyage, résoudront des énigmes sur des meurtres. Voyager en Irlande, en Grande-Bretagne, en Petite-Bretagne, en France, à Rome, à Compostelle, au 7e siècle, est passionnant. Toutefois, certains contextent la véracité historique de l'environnement dans lequel ils évoluent, compte tenu que les Celtes avaient avant tout une tradition orale, et que ceux qui les ont vaincus se sont empressés de faire disparaître toute trace de leur existence. Mais il en a été de même chez nous avec les Cathares. La série comprend aujourd'hui 27 volumes, disponibles en 10-18. Le premier étant Absolution par le meurtre, numéro 3630. Je vais vous lire un passage du premier tome des mystères de Sir Fidelma, Le sueur de l'archevêque. Elle fit un large geste de la main en direction des riches bâtiments ecclésiastiques qui les entouraient. Vous vous souvenez des mots de Matthieu ? Le Seigneur dit « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. » Je trouve ces trésors terrestres trop éblouissants pour la simplicité de notre foi. Frère Tedulf pinça les lèvres et secoua la tête avec un air de reproche malicieux. Bien que son expression soit sérieuse, il ne dissimulait pas l'humour qui pétillait dans ses yeux. Il savait que Fidelma avait un puissant esprit raisonneur et qu'elle pouvait facilement citer les Écritures pour faire valoir ses arguments. Les Romains conservent ces trésors parce qu'ils appartiennent à leur histoire, par respect pour leur passé et non pas à cause de leur valeur financière ou pour la foi. Si l'Église existe ici-bas pour préparer les gens à l'autre monde, alors pourquoi pas dans ce monde-ci ? Après tout, son apparat et les témoignages de son passé, Fidelma objecta immédiatement. Matthieu l'a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ceux qui vivent dans ce beau palais paradent sous ces splendeurs temporelles, doivent sûrement placer Mammon avant Dieu. Ils sont en train de visiter Rome et la cité, la future cité du Vatican. Frère Tedulf parut un peu choqué. Vous êtes en train de parler de la demeure du Saint-Père. Non, Fidelma, ce n'est pas une partie de l'héritage de Rome et de la chrétienté que l'on retrouve dans ce magnifique palais. Partout où vous irez à Rome, vous foulerez l'histoire. Fidelma sourit avec dérision devant son enthousiasme. Partout dans le monde, vous vous trouvez sur un endroit qui représente la mémoire de quelqu'un, répliqua-t-elle sèchement. Je me suis tenu dans la pauvre colline dénudée de Ben Eder, où le corps sanglant d'Oscar, fils d'Oisin, fut porté en terre après la catastrophique bataille de Gabra. J'ai vu le cairn qui fut élevé sur la tombe de l'épouse d'Oscar, Edin, qui mourut de chagrin en voyant le corps de son époux. Un petit cairn de pierre grise peut résumer l'histoire d'une manière tout aussi déchirante que ces grands édifices. Tedulf engloba d'un geste enthousiaste le grand palais du Latran et la basilique Saint-Jean attenante. Mais regardez ça, c'est le cœur même du christianisme, le siège de son chef temporel depuis 300 ans. Il y a tellement d'histoire dans chaque brique, dans chaque morceau de mosaïque. Un superbe ensemble architectural, je veux bien le reconnaître. Edulf secoua la tête devant son manque de révérence. Avant que l'empereur Constantin ne le confie à Melchiade, il y a 350 ans, afin que l'évêque de Rome érige une cathédrale pour la ville, ce palais et cet emplacement avaient déjà une histoire. Fidelma se tut devant ce verbe exalté du moine. C'était le palais d'une grande famille de praticiens de l'ancien Rome, les Laterni. À cette époque, alors que l'infâme empereur Néron persécutait les chrétiens, il y eut une conspiration dans le but de l'assassiner. Caius Calpurnius Pison, qui était consul, un grand orateur, ainsi qu'un personnage riche et populaire, menait le complot. Mais il fut découvert et les conspirateurs furent arrêtés et condamnés à mort, ou contraints au suicide plutôt que de devoir subir une exécution par égard pour leur rang de praticien. Parmi eux, il y avait Pétrone, celui qui a écrit le Satyricon, et le poète Lucain et le philosophe Sénèque, ainsi que Pison lui-même. En plus de ces lettrés, il y avait Plautius Lateranus, qui possédait ce palais. Ses biens lui furent confisqués et il fut condamné à mort. Fidelma mesura la riche façade du palais du Latran, sans cesser de désapprouver son opulence. « C'est un magnifique édifice, » dit-elle doucement, « mais pas aussi beau qu'une agréable vallée, une grande montagne ou une falaise balayée par le vent. » Voilà la beauté vraie, la beauté de la nature libre des contraintes imposées par les hommes dans leur édifice éphémère. Edulf la contempla d'un air désolé. « Vous devez me prendre pour un philistin, ma sœur. » Fidelma leva les sourcils et secoua la tête. « Pas du tout. Vous avez passé 2 années de votre vie ici à Rome, dans le but louable de vous instruire. Mais dans vos louanges, vous avez négligé de mentionner le fait que le palais du Latran primitif fut détruit et que Melchiade construisit son bâtiment sur des ruines. Vous oubliez de dire que ces édifices ont été reconstruits 2 fois au cours de ces 200 dernières années, en particulier après leur destruction par les Vandales, il y a 2 siècles. Alors, où est la continuité avec l'histoire dont vous parlez? Je ne vois que des monuments éphémères. » Edulf la contempla longuement, à la fois surpris et dépité. « Vous saviez donc l'histoire depuis le début ?» lui reprocha-t-il en ignorant le point qu'elle venait de marquer. Fidelma haussa les épaules de façon éloquente. « Je l'ai demandé à l'un des gardiens de la basilique, mais vous étiez tellement désireux de partager votre savoir. » Elle fit une grimace et soudain elle eut un grand sourire espiègle, comme pour s'excuser de sa répartie désagréable. Elle posa la main sur son bras. « Venez, Edulf, je voulais juste souligner le fait que ces édifices sont des édifices temporaires par rapport à la plus grande des cathédrales qu'est la nature, et que l'homme ravage souvent pour ses misérables constructions. Je me suis récemment demandé à quoi ressemblaient les 7 collines de cette ville incroyable avant qu'elle ne soit recouverte par les habitations. » Voilà le rapprochement de Fidelma et de Edulf, qui va continuer au cours de tous ces volumes. Et je vous le laisserai découvrir si vous le lisez. Et surtout, le plus à craindre, c'est de ne pas pouvoir s'en séparer.
Sang it. I had not gone but half a mile when there by chance I spied two lovers talking as they walked down by Blackwater side. And as he held her in his arms, these words to her did say: "When I am in America, I'll be true to my Irish maid. 'Tis when you are in America, those Yankees
is it.
L'autre auteur est Anne Perry, écrivain anglaise, spécialiste des polars victoriens. Deux séries importantes. L'une se déroule vers 1850. Les héros sont l'inspecteur Monk, qui est amnésique suite à une agression lors d'une enquête, et Esther Latterly, une des premières infirmières formées en Crimée avec Florence Nightingale. On a à la fois Londres sociale de cette époque et la vie dans le système de santé qui commence à évoluer lentement, très lentement, vers des hôpitaux modernes. Monk retrouvera-t-il la mémoire? Qu'en sera-t-il des liens étroits qui évolueront avec le temps, avec Esther, entre Esther et Monk? Nous aurons 23 tomes, toujours en 10-18, le premier étant « Un étranger dans le miroir », numéro 2978. Je vais vous lire un passage de « Un étranger dans le miroir » d'Anne Perry. Quand était-il venu vivre à Londres? Il s'aperçut atterré qu'il ignorait jusqu'à son propre âge. Il ne s'était toujours pas regardé dans la glace. Pourquoi? Que craignait-il? En quoi l'apparence physique comptait-elle pour un homme? Pourtant, il tremblait. Il déglutit avec effort et prit la lampe à huile sur le bureau. Lentement, il entra dans la chambre et posa la lampe sur la table de toilette. Il y avait forcément un miroir quelque part, assez grand pour lui permettre de se raser. C'était un miroir pivotant. Voilà pourquoi il ne l'avait pas remarqué. Son œil ayant été attiré par la brosse en argent, tout doucement, il la baissa vers lui. Le visage qui lui apparut était sombre et énergique, à forte ossature. Nez légèrement aquilin, grande bouche, lèvres supérieures plutôt minces, lèvres inférieures plus pleines, avec une vieille cicatrice juste en dessous, yeux d'un gris lumineux dans la lueur vacillante de la lampe. C'était un visage imposant, mais pas avenant. S'il reflétait l'humour, c'était de l'humour noir, esprit plutôt que de gaieté. Il pouvait avoir entre 35 et 45 ans. Monk prit la lampe et regagna la pièce principale à l'aveugle, hanté par le visage entrevu dans le miroir terne. Non qu'il lui déplût spécialement, mais c'était le visage d'un étranger, de quelqu'un qui ne se livrait pas facilement. Le lendemain, sa décision était prise. Il irait voir sa sœur dans le Nord. Au moins, elle serait capable de parler de son enfance, de sa famille. D'après ses lettres et la date récente de la dernière, elle lui avait gardé son affection, méritée ou non. Il lui écrivit donc dans la matinée, disant simplement qu'il avait eu un accident, mais s'était rétabli maintenant, et entendait lui rendre visite dès qu'il serait en état de voyager, autrement dit d'être un jour ou deux. Dans un jour ou deux. Entre autres, il avait trouvé dans un tiroir du bureau une modeste somme d'argent. Visiblement, le tailleur était sa seule extravagance. La coupe impeccable et l'excellente étoffe de ses habits en témoignaient. Et la bibliothèque, peut-être, à supposer que les livres fussent à lui. En dehors de cela, il avait économisé régulièrement. Dans quel but? Il n'en savait rien. Et cela n'avait plus guère d'importance. Il remit à Mrs. Worley un mois de loyer d'avance, moins les repas qu'il ne prendrait pas en son absence, et lui annonça qu'il partait voir sa sœur dans le Northumberland. Très bonne idée. Elle hocha la tête avec sagacité. Il était temps que, et si vous voulez mon avis, vous ne me l'avez pas demandé, c'est vrai, je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres. Elle reprit sa respiration. Mais si vous n'êtes pas allé la voir depuis que je vous connais, ça fait un bail. La pauvrette, elle vous a écrit souvent. Quant à lui répondre, c'est une autre paire de manches. Elle mit l'argent dans sa poche et le regarda attentivement. Prenez donc soin de vous, mangez correctement et vous tuez pas à courir après les gens. Laissez les malfrats tranquilles et occupez-vous de votre personne. Sur cet ultime conseil, elle lissa son tablier et s'éloigna dans un cliquetis de talons vers la cuisine. Le 4 août, Monk prit le train à Londres, s'embarquant pour un long voyage. Monk cherchera donc son identité à travers la plupart des gens qu'il va rencontrer. et se prendra d'amitié pour Esther. Et vous verrez comment va évoluer cette liaison.
How dare you wear a robe to preside? How dare you cover your head to hide your face from God? How dare you smile from behind your beard to hide the fact your heart's a fear and wave your rod? How dare you be the one to assess me in this godforsaken mess? You, a man in a purple dress. A man in a purple dress. When you place your frown between my God and prayer, however grand your crown or dignified your hair, men above men or prats in your high hats. You priest, you must so high, you pope, you wise rabbi, you're invisible to me like vapor on the sea. I lovingly mock you noble lords, we all dress up to grant awards. I do that as well. I dare condemn your fashion sense. At least you're not a Stradivarius, that would not sell. But I will deliver this address. Your soul's condition don't impress. You, a man in a purple dress. A man in a purple dress.
Une autre série se déroule en 1880 à Londres. C'est une étude sociale de l'Angleterre victorienne, toujours par Anne Perry. Les héros sont Thomas Pitt, inspecteur, sans titre de noblesse et sans fortune personnelle, et Charlotte Ellison, jeune fille de la haute bourgeoisie londonienne. Là où nous avons 31 tomes, à ce jour, toujours en 10-18, le premier étant L'étrangleur de 14 Street, numéro 2852. Je vais vous lire un passage de L'étrangleur de 14 Street, d'Anne Perry, donc la seconde série, la série qu'on appelle la série Pitt. Donc c'est la rencontre entre Pitt qui est inspecteur et puis Miss Ellison qui est très proche d'un meurtre qui a eu lieu dans son quartier. Ce Pitt était vraiment un personnage débraillé, l'opposé de Dominique. On aurait dit un échassier en train de battre des ailes. Je ne vois pas pourquoi il aurait nourri des sentiments, quels qu'ils fussent, pour Miss Abernathy. Pitt éleva la voix. « Miss Abernathy, était-elle une amie à vous ?»« Pas spécialement. »« Oui, dit-il pensivement. D'après ce qu'on m'a raconté, il est peu probable que vous l'ayez choisie comme amie. C'était une jeune fille assez volage, très portée sur le rire et les choses frivoles, la pauvre enfant. » Charlotte le regarda. Il était plutôt grave. N'avait-il donc pas suffisamment l'habitude de la mort pour qu'elle ne l'affecte plus ? Ce n'était pas une personne immorale, dit Charlotte calmement, seulement très jeune et un peu écervelée. Sans doute, Pitt esquissa une grimace crispée. Il est peu vraisemblable, poursuivit-il, qu'elle ait eu une liaison avec le majordome des voisins. Elle devait placer ses ambitions ailleurs, j'imagine. Elle n'aurait pu rester dans la société qu'elle recherchait. Si elle avait été liée d'une quelconque manière à un domestique, même un serviteur de haut rang. Seriez-vous sarcastique, Mr. Pick ? Simplement prosaïque, Miss Ellison. Je n'observe pas toujours les règles de la société, mais je les connais. Vous me surprenez, dit-elle tranchante. Désapprouvez-vous le sarcasme, Miss Ellison ? Elle se sentit rougir. Il avait touché juste. « Je vous trouve offensant, Mr. Pitt. Si vous avez une question à poser en rapport avec votre enquête, je vous prie de continuer. Sinon, permettez-moi d'appeler Madoc pour vous raccompagner à la porte. » À la surprise de Charlotte, Pitt rougit lui aussi. Et pour une fois, il évita son regard. « Je vous présente mes excuses, Miss Ellison. Je ne souhaitais nullement vous offenser. » À présent, elle était troublée. Il paraissait malheureux, comme si elle l'avait réellement blessé. Elle avait tort, et elle le savait. Elle s'était montrée terriblement insolente. Il s'était oublié au point de lui rendre l'appareil. Elle avait alors usé de sa position sociale pour porter le dernier coup. Il n'y avait pas de quoi en être fier. En fait, il s'agissait d'un abus de droit. Il lui fallait rectifier cela. Elle n'osa pas le regarder. « Excusez-moi, Mr. Pitt. » « J'ai parlé un peu vite. Je ne suis pas offensé par votre attitude, mais perturbé par les circonstances, et ce davantage que je ne le voudrais. Veuillez me pardonner ma rudesse. » Il parla très posément, et Milite avait raison. Il avait une très belle voix. « Et ce que vous venez de faire est admirable, Miss Ellison. »
Jusqu'au fond des bois. La maison de Marius se cachait entre les ronces et les genêts qui la protégeaient. Camille bosse au ciment. La chevaliers sont crevés. L'antiquaire de Privas est passé. Il a raflé le pétrin, le vaisselier, les joues et les chenets. C'est dommage, on aurait bien aimé rester. Faudrait pas croire que la terre, on n'aurait pas su quoi en faire. Mais la vie ne va pas s'arrêter, des gens sérieux vont s'en occuper, des gens pleins d'idées. L'an prochain ils vont faire un camping, et l'année d'après un parc.
Voilà, donc pour la consigne de cette seconde émission, c'est d'écrire une histoire qui se déroulerait entre aujourd'hui, hier et dans le futur, avec au moins deux personnages récurrents qui ont un lien avec le sujet de l'histoire. Un secret dans le passé, une énigme aujourd'hui, la résolution de cette énigme et révélation du secret dans le futur. Voilà, donc écrivez cette histoire, toujours sur deux pages à quatre, et vous pouvez me l'envoyer sur notre email lire-et-écrire@studiosef.fr. Merci et à la prochaine.
Racontez. C'est celle du chien, de la poubelle. Et de la rose.
femme tartine et la...